Bora, levanta.
Já levantei, já.
O cabelo da minha nega. Não percebo nada do que dizes.
Olha, olha, Belula.
Não sei.
Ah, não sei, mó.
Não sei.
Não sei.
Não sei.
Não sei.
Quero saber a minha história.
Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos.
Você quer viver ou morrer?
Jacques Lemire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à passer quelques instants en compagnie des auditeurs Radio Pays des Roux et de RPH Sud. Vous êtes l'invité de la 59e édition de la rencontre cinéma de Pézenas et vous êtes intervenu à plusieurs titres. Le premier, c'est votre connaissance du cinéma portugais. Et le deuxième, c'est l'intérêt que vous avez porté et les études que vous avez conduites sur le mouvement des Gilets jaunes. Pour vous présenter rapidement, mais vous pouvez me corriger.
Oui.
Vous avez été ou vous êtes encore enseignant à l'Université de sociologie et anthropologie de Lille. Vous êtes également chercheur à l'Université de Lille et vous travaillez plus particulièrement sur le cinéma, que ce soit le documentaire ou le cinéma portugais, et dans le champ de la sociologie et de l'anthropologie politique. Comment êtes-vous allé vers le cinéma portugais ?
La rencontre avec le cinéma portugais est d'abord une rencontre quand j'étais jeune étudiant de sociologie et d'ethnologie, dans le contexte de la révolution populaire qui a suivi le coup d'État du 25 avril 1974, qui a destitué le régime salazariste, qui avait plus de 40 ans d'existence. Donc, dans ce contexte, c'était un intérêt de ce jeune étudiant en sociologie et ethnologie pour la Révolution portugaise, avec des amis, une prise de décision d'aller étudier cette révolution sur place pendant nos vacances et de restituer par des écrits, par des interventions publiques, le sens que nous voyions dans cette révolution. Et bon, comme ça arrive, ça a été une rencontre fulgurante avec un Portugal qui n'était pas dans une situation ordinaire. Une situation absolument exceptionnelle où la parole était libérée, où les gens étaient prêts à discuter de tous les sujets, où tout était ouvert. Et bien évidemment, une révolution, ça finit par se stabiliser institutionnellement, et puis le pays redevient un pays normal, si je puis dire. Et puis par ailleurs, l'enjeu que les dirigeants politiques qui ont gouverné le Portugal après cette révolution lui ont donné, c'était d'entrer à l'intérieur des structures de l'Union européenne. Donc il y avait ce contraste entre un Portugal qui avait été tenu pendant plus de 40 ans à l'écart du reste de l'Europe occidentale, à cause d'une part de la nature de son régime, qui était un régime dictatorial, fasciste, il y avait une police politique très très sévère, et par ailleurs, différent aussi des autres pays de l'Europe occidentale par le fait qu'aucun processus de décolonisation n'avait été engagé. Alors qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais puis-je retourner au Portugal une fois que cette situation est abolie? C'est-à-dire qu'on est retombé dans une normalité. Et je restais en même temps très attaché à l'idée que le Portugal était singulier et sans doute ne voulant pas perdre la recherche de cette singularité par rapport au reste de l'Europe, même s'il allait devenir un pays européen parmi les autres. J'avais donc, dans mon esprit de l'époque, c'était au milieu des années 80, fin des années 80, j'avais un peu de choix, soit je laissais le Portugal loin de moi, soit j'y revenais pour faire construire un lien d'étude particulier avec le Portugal qui me permettrait d'entrer à l'intérieur de sa connaissance. Et j'ai fait le choix d'étudier son cinéma sous un angle très précis, qui était la façon dont le cinéma parlait de la question du Portugal. C'était quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais une toute petite quarantaine d'années, enfin entre 35 et oui 35-40 ans, et quand on apprend une langue à cette époque, à cet âge pardon, on fait feu de tout bois, et donc j'allais voir des films quand j'étais à Lisbonne. Voilà, j'ai donc vu la richesse du cinéma portugais et j'ai décidé en 1990 d'ouvrir à Rouen, où j'étais professeur de lycée, des journées de cinéma portugais. J'ai invité des films majeurs, j'ai invité des réalisateurs. Et j'ai tenu ces journées à Rouen jusqu'en 1995, où j'ai dû quitter la ville pour aller enseigner à l'université. Voilà.
Vos amours premières sont quand même la sociologie et l'anthropologie. J'aimerais savoir que vous donne comme possibilité le cinéma, parce qu'il y a quand même cet angle d'approche.
Oui. Hein, alors, vous avez dit que j'étais enseignant et chercheur. J'ai été enseignant jusqu'au 1er septembre 2019, parce que je suis là, parti en retraite. Je suis resté chercheur. Mais comme enseignant à l'Institut de sociologie, où j'ai été enseignant entre 1989 et 2019, j'ai fait entrer le cinéma à l'intérieur des études d'ethnologie. Parce que bien évidemment, entre la recherche ethnographique, la recherche ethnologique et le travail cinématographique, il y a un cousinage qui est très fructueux. Voilà. Et j'ai toujours par ailleurs, m'adressant à mes étudiants de sociologie et d'anthropologie, veillé à ce que leurs connaissances cinématographiques soient renforcées. Et comme il ne s'agissait pas de leur faire la morale si j'étais amené à citer dans mes cours des films très importants par rapport au sujet qu'on discutait, je décidais d'organiser des journées cinématographiques pour eux. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis d'abord, j'ai fait organiser des journées cinématographiques pour les étudiants de sociologie et d'anthropologie sur mon campus à Lille. Et ensuite, j'ai fait entrer l'enseignement à l'intérieur du cursus. Et j'ai même mené des étudiants de licence d'ethnologie à réaliser des films.
Vous considérez que le cinéma est donc révélateur du contexte sociopolitique.
Le cinéma, le cinéma.
Dans lequel il est produit.
On pourrait dire que le cinéma est un art du présent. Et dans le cas d'espèce, de beaucoup de films, et notamment là du cinéma portugais auquel je suis attaché, j'ajouterais il est l'art du présent d'un pays. Voilà. Le cinéma est un des arts qui est, à cause de la nature même de cette combinaison d'images et de sons qui donne à voir et donne à entendre un pays et une société est vraiment... Alors la littérature, bien sûr, est capable de parler de l'état d'un pays ou de l'état du présent d'un pays, le théâtre aussi, mais le cinéma a une capacité particulière dans ce domaine.
On m'a dit qu'en ce qui concernait le cinéma portugais, vous étiez un très grand admirateur. D'un des réalisateurs portugais, Manuel Oliveira. Qu'est-ce que vous trouvez dans la filmographie?
On ne peut pas reconnaître la valeur du cinéma portugais sans mettre au centre de cette reconnaissance la figure et l'œuvre de Manuel Oliveira. C'est un homme qui est né en 1908, il a donc connu les débuts du cinéma. C'est un homme qui est mort en 2015. C'est un homme qui a filmé entre 1930, imaginez-vous, et 2014, un an avant sa mort. Vous imaginez l'âge qu'il avait quand il a fait son dernier film, qu'il a fait au pied de son immeuble, dans un jardin. Un petit film, bien évidemment, adapté à sa condition d'homme plus que centenaire. Vous faites le calcul, hein. 2014 moins 1908, vous avez quand même un chiffre assez impressionnant. Mais voilà. Et c'est un homme aussi, il faut le dire, qui, à la différence de ses congénères nés dans les années 1900-1910 et qui ont vu arriver le régime salazariste en 1930, n'a pas transigé avec ce régime, n'a pas décidé de faire... garantir sa carrière par la moindre allégeance, qu'elle soit politique ou esthétique, au régime. Et voilà. Donc, du coup, il a gagné une figure morale pour toujours dans le cinéma portugais. Et par ailleurs, comme il a traversé toute cette époque avec cet esprit de résistance, de dissidence à la fois morale, politique d'un côté et esthétique de l'autre, il a produit au fil du temps, par strates, des films d'une valeur extraordinaire. Je dis, dans une formule, il a été moderne plusieurs fois.
Je disais tout à l'heure que vous étiez toujours intéressé au champ de la sociologie et de l'anthropologie politique, mais dans le cinéma, il y a aussi une dimension esthétique. Vous l'avez,
bien
vous
sûr.
Avez trouvé une bien originalité
sûr. Bien
dans
sûr.
Cette dimension-là, dans le cinéma de Olivera.
Bien sûr, ben bien sûr. Mais de toute façon, c'est vrai de tout film qui a même une portée ethnologique ou sociologique explicite, ce qui n'est pas le cas des cinéastes. Jean Rouch, qui est un grand ethnologue français de l'Afrique, nous a montré que le cinéma qu'on doit faire en Afrique, quand on est ethnologue, ne met pas de côté la question esthétique. Donc, visiter l'œuvre d'Olivera, c'est visiter des inventions esthétiques permanentes. Voilà.
Oui, parce que c'est...
Avec une variété de solutions à cette recherche de nouvelles formes qui est impressionnante.
Oui, parce que la question que j'allais vous poser, c'était de savoir s'il avait inventé de nouvelles formes de l'esthétique et s'il les avait mis au service du contenu, enfin, de ce qu'il voulait dire. Quoi.
Il a souvent été pionnier. Il a été pionnier en même temps que d'autres. Voilà. Il a souvent été pionnier. Si vous faites l'histoire des films d'Olivera et si vous faites l'histoire des grands mouvements du cinéma en Europe, dans tous les pays d'Europe, des grands pays de cinéma d'Europe, la Russie, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Vous voyez que Olivera est très souvent pionnier. Voilà, mais après, ce serait une discussion assez. Il faudrait une discussion assez fine. Il faudrait beaucoup plus de temps pour donner des exemples.
Dans la présentation qui est faite sur le programme de la 59e rencontre, il est mentionné que vos dernières interventions et publications portent sur la mobilisation des gilets jaunes comme nouveauté politique.
Oui, si on a le temps, je voudrais dire que, bien évidemment, mon idée n'est pas du tout de réduire le cinéma portugais à la figure d'Olivera. Donc il y a quand même, il y a après lui toute une série de générations et je dis juste en deux mots, le cinéma au Portugal ne s'est jamais arrêté d'inventer. Et d'une certaine façon, il y a une transmission générationnelle qui semble s'opérer, même si chaque génération fait le travail en fonction des caractéristiques de son époque. Après Olivera, on a eu la génération des années 60 qui correspond chronologiquement à la nouvelle vague française et aux nouvelles vagues dans d'autres pays, en Italie, au Brésil, etc. Ensuite, vous avez une génération qui va filmer après 74. C'est très important parce que ce sont les premiers qui sont libérés de la censure, parce que la censure tombe en 1974. Et un cinéma qui est sous censure et un cinéma qui n'est pas sous censure, ce n'est pas la même chose. Vous avez une génération qui a commencé à filmer à partir de 1990 et qui est très brillante aussi, duquel émerge la figure la plus importante maintenant, je pense, dans le cinéma portugais, dès lors que Olivera est mort, c'est Pedro Costa, dont on va montrer ici le film Vitalina Varela, donc qui est une merveille. Et puis vous avez, aujourd'hui au Portugal, un très grand nombre de jeunes gens qui, avec les moyens que permet le numérique, s'appliquent à faire des courts, des longs, des moyens métrages, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, c'est-à-dire avec peu de moyens, et même si la distribution des films n'est pas assurée. Donc il y a quelque chose, il y a des arts qui sont plus puissants dans certains pays que dans d'autres, et sans doute le cinéma a une puissance au Portugal qu'il n'a pas dans d'autres pays, comme par exemple la poésie au Portugal a une puissance qu'elle n'a pas dans d'autres pays. Peut-être que c'est aussi une explication du fait que le cinéma au Portugal, parce que cinéma de poésie, a cette résilience. Voilà.
Le cinéma portugais aujourd'hui a des outils pour j'allais dire poursuivre l'œuvre de Olivera, des écoles de formation de réalisateurs, un nombre de salles, un système de production, un système de distribution.
Alors le problème n'est pas tant le problème des outils, parce que en réalité on peut avoir des outils et faire de mauvais films ou faire des films qui sont dans le standard télévisuel et où on finit par ne plus voir beaucoup de différence entre le film de cinéma et le film de télévision. Donc, quels sont les points forts et quels sont les points faibles du Portugal de ce point de vue ? Alors, point faible, mais qui va être aussi un point fort, paradoxalement. Point faible, c'est la faiblesse du réseau des salles, qui fait que, notamment des salles qui montrent des films différents du mouvement mainstream du cinéma, qui fait que le spectateur portugais voit essentiellement des films américains, et voit des films portugais qui se proposent des films de distraction sans grand souci formel.
Ce qui pour nous pourrait correspondre au système de distribution des salles d'art et d'essai, par exemple.
C'est-à-dire que non seulement il y a peu de salles d'art et d'essai au Portugal, mais même le réseau des salles municipales s'est affaibli. Heureusement, quand il y a des salles municipales, des associations qui ne veulent pas que les spectateurs portugais soient condamnés au multiplex et à la programmation des blockbusters s'acharnent à une activité bénévole, militante, pour faire en sorte qu'un cinéma différent apparaisse. Mais c'est vraiment une lutte. Il n'y a pas de marché pour le cinéma portugais. Je veux dire, il ne peut pas y avoir une industrie cinématographique comme il y a en France. Alors, c'est parce que le pays fait 10 millions d'habitants, parce qu'il y a cette captation de la fréquentation par ce cinéma importé par des sociétés de distribution portugaises qui est commerciale et qui montre des films principalement américains. En même temps, ce point de faiblesse est un point de force, parce qu'on peut aussi décider de faire des films sans les penser pour le marché. Et à ce moment-là, on fait des œuvres beaucoup plus libres. Voilà, ça c'est une chose. Quand j'ai commencé à mettre le pied dans le cinéma portugais, quand j'animais ces journées de cinéma portugais de Rouen, je me disais, il faut que je sois capable de dire aux gens quelles sont les grandes caractéristiques des films que je vais leur montrer. Parce que je ne leur montrais pas des films dits commerciaux. Et je disais, finalement, le cinéma portugais, on pourrait dire que c'est un triptyque, c'est artisanat, recherche de formes nouvelles, donc invention esthétique, et interrogation sur le Portugal. Voilà, c'était ça. Et ça, je crois que ça reste assez vrai. Là, hier, on présentait un film qui s'appelle Diamantino, qui n'est pas le film de mon cœur le plus absolu. J'ai fait pour les spectateurs de Pesnas, en regardant le film avec eux, l'effort de dominer mes réserves et de regarder la positivité de ce film. J'y ai retrouvé ces trois critères.
Ce qui est certain, c'est que les échos recueillis à l'issue de la projection étaient particulièrement favorables par rapport à ce film.
Si vous me le dites, je veux bien vous croire.
Mais vous pouvez me croire. Mmh. Il s'exporte, le cinéma portugais.
Alors.
Il a un écho à l'étranger.
Alors, si vous voulez, l'exportation, quand on n'a pas d'industrie, ça ne peut pas être une sortie du pays par les moyens industriels. Les cinémas qui s'exportent, c'est les cinémas dominants. Quand on regarde ne serait-ce qu'un DVD d'un film américain et qu'on voit qu'ils ont prévu 45 langues dans lesquelles vous pouvez regarder le DVD, vous vous dites l'industrie est bien organisée. Donc, le cinéma portugais, il est dans le paradoxe d'une faiblesse de diffusion interne et d'une puissance de reconnaissance extérieure par les festivals. C'est-à-dire que sur les 15 dernières années, vous faites la liste des prix obtenus dans des festivals européens importants comme Cannes, Venise, Locarno,
Berlin,
et vous avez là, à chaque fois, des récompenses, mais pas seulement des récompenses pour des cinéastes qui ont déjà de la bouteille, y compris des récompenses pour des jeunes gens. Donc il y a quelque chose, c'est cette résilience dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est par là que la reconnaissance du cinéma portugais se produit, et cette reconnaissance est en bonne santé. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand le cinéaste qui revient d'un festival a son prix, bien évidemment, la presse portugaise est touchée, elle en parle, et à ce moment-là, il y a un regain de meilleures peut-être conditions pour assurer la diffusion du film dans le pays. Alors peut-être ça peut vous intéresser de savoir ce qui se passe entre le Portugal et le Brésil, puisque apparemment c'est la même langue. Mais en réalité, profondément, ça n'est pas la même langue. C'est-à-dire que moi qui comprends le portugais, je comprends un brésilien, et un portugais comprend un brésilien, parce que les brésiliens parlent lentement et détachent les syllabes. Mais un brésilien ne comprend pas très bien un portugais. Les portugais parlent vite et ne détachent pas les syllabes. Voilà, ils avalent les consonnes, et c'est au point que si on veut distribuer un film portugais au Brésil, on doit le sous-titrer. Alors, par ailleurs, il y a la langue portugaise dans les pays d'Afrique, mais bon, Angola, Mozambique, Guinée, pays d'Afrique indépendants, ex-colonisés par le Portugal, pays de langue où le portugais n'est pas absent. Mais là, voilà, le public n'est pas structuré pour recevoir ces films. Donc, le fait que le Portugal n'a pas d'industrie et qu'on ne peut pas vraiment parler d'exportation dans ce sens-là, mais je vais préciser quand même quelque chose après, il est lié au fait que les pays de langue portugaise qui ne sont pas le Portugal, sont peu accessibles à une exportation. En même temps, il y a des phénomènes, si on entre dans le détail, qui sont très très intéressants. On sait que le Portugal est le premier pays d'Europe occidentale qui a rencontré le Japon. Ça se passait au XVe siècle. Et il s'est passé quelque chose entre Portugal et Japon. Et le Japon est friand de films portugais. Par exemple, dans les années 70-80, les films de Paulo Rocha étaient extrêmement demandés par le Japon. Et actuellement, les films de Pedro Costa ont beaucoup de succès au Japon. Alors, ce sont après des phénomènes de reconnaissance de chaque cinéaste. Mais les cinéastes portugais, grâce à ce réseau des festivals et à leur notoriété internationale, circulent dans tous les pays.
C'est peut-être aussi parce que le cinéma portugais porte davantage l'image de l'âme humaine que de l'âme seulement d'un pays.
Oui, les deux.
Les deux.
Les deux. Vous savez, il y a un poète portugais qui s'appelle Miguel Torga, qui a cette très belle définition de l'universel. L'universel, c'est le local moins les murs. Ça veut dire que vous pouvez faire un film au Portugal qui est très portugais. Si vous le faites dans un esprit d'ouverture, il est à portée universelle.
Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on accorde quelques instants de cet entretien à votre position. Vous êtes intéressé à la mobilisation des Gilets jaunes comme nouveauté politique. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a sans doute moyen à développer cette idée. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle politique? Cette nouveauté politique que révèle la mobilisation des Gilets jaunes pour vous?
Mouvement horizontal, agrégation et interconnaissance des gens par les réseaux sociaux, Facebook comme moyen de mobilisation, pas de ligne générale, des gens qui entrent dans le mouvement en écrivant sur le dos de leur gilet leur raison d'être dans ce mouvement. Il y a des livres qui ont été faits, ça s'appelle Plein le dos. Gros volume de photographies sur toute la France. Uniquement des photographies de dos de gilets. Mais c'est un roman. C'est le roman du pays. C'est-à-dire, chaque personne dit sa phrase, dit sa préoccupation, dit sa raison d'être là. Donc c'est un jeu avant d'être un nous. Et ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique... le rapport au pouvoir. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement contemporain de la crise des partis et de la crise de la représentation parlementaire. Il est aussi, d'une certaine façon, pour le cas de la France, un mouvement, je pense, contemporain de l'épuisement des institutions de la Ve République. Donc, les Gilets jaunes sont descendus sur leur rond-point. Ils ont affiné leur raison d'y être dans le premier mois, parce qu'ils y allaient tous les soirs et ils se connaissaient mieux et ils se parlaient, etc. Ils ont installé une vision de leur légitimité qu'ils ont opposée à la légitimité du pouvoir. j'ai été frappé par le fait que la manière dont ils construisaient ce qui était à leurs yeux leur légitimité, elle était plus posée par des principes et des valeurs que par des revendications. Respect, justice, solidarité, fraternité, etc. Ce sont des gens qui ont opposé un régime de valeurs en disant, comprenez notre méfiance vis-à-vis du gouvernement, si le gouvernement ne nous respecte pas, nous ne le respectons pas. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce choc qui s'est traduit par les événements du mois de décembre en particulier, avec un pouvoir qui flageolait, et puis des gilets jaunes qui étaient dans toute leur force. Autre caractéristique, ils ne sont pas un mouvement corporatiste. Ils ne sont pas les représentants d'une profession. Donc, ils n'ont rien à voir avec les syndicats. Ils disent souvent, les gilets jaunes, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est pour tous. Et donc, comme ils ne sont pas une corporation, comme ils ne sont pas une profession, ils ne sont pas un métier, ils ont cette phrase, ils ont ce chant qui est très expressif, « Gilets jaunes, quel est ton métier ?» Waouh, waouh. Ça veut dire qu'ils ne sont pas représentants d'un métier. Et ça, c'est très, très important, ça a des conséquences. Par exemple, ils ne se sont pas mobilisés contre les patrons ou contre le capital. Ils se sont mobilisés contre le pouvoir et en désignant le cœur du pouvoir, le centre du pouvoir, c'est-à-dire le président. L'autre chose que je tiens à dire, parce qu'ils ont été traités d'extrémistes, de droite, etc., on a mis en cause leur usage du drapeau bleu-blanc-rouge. L'autre chose qui est importante à dire, c'est que la présence du drapeau bleu-blanc-rouge, en tout cas pour ceux que moi j'ai fréquentés, je les ai fréquentés longtemps, discutant avec eux, marchant avec eux, de façon à avoir une vision élargie du mouvement, elle n'est pas du tout, elle n'est pas xénophobe, elle n'est pas nationaliste. C'est l'idée qu'il faut reconstruire ce pays. J'ai fait une conférence ici, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, où j'ai montré une pancarte tenue par un homme dans une manifestation à Dunkerque en juin 2019. Il a écrit sur son carton de « Excusez pour le dérangement, on essaie de changer le pays ». Voilà, et donc je pense, quand ils sont surgis, j'avais des étudiants, bien sûr mes étudiants de sociologie, d'ethnologie me disaient qu'est-ce que vous en pensez, etc. J'ai dit écoutez, allez voir, vous êtes des jeunes gens, vous êtes mobiles, exercez votre curiosité, allez les voir. Et pourquoi je vous dis ça, disais-je à mes étudiants, j'ai vu à la télévision une image de rond-point sur lequel il y avait un drapeau bleu-blanc-rouge, où sur chaque partie du drapeau tricolore, il y avait 1789, 1968, 2018. J'ai dit, des gens qui mettent ça sur le drapeau national, on ne va pas pouvoir les traiter de fascistes ou de xénophobes. Voilà. Donc là, j'ai tracé l'essentiel. Voilà, tout ça, c'est un mouvement extrêmement contemporain.
Vous pensez qu'il peut servir de tremplin à de nouvelles idées de faire de la politique, de nouvelles idées pour vivre sa citoyenneté ?
Je dirais que les idées de citoyenneté, les idées de démocratie réelle ont fait l'objet de multiples discussions chez les Gilets jaunes qui sont très vite apparues comme autre chose que comme des révoltés contre une taxe. On a montré ici à Pézenas un film fait le week-end du 8 décembre. Vous voyez, le 8 décembre par rapport au 17 novembre, c'est très proche. Jean-Pierre Thorne et son équipe vont sur le rond-point de Montabon dans la Sarthe. Et le film est un peu évolué entre deux parties. La première partie est consacrée à leurs aspirations à de meilleures conditions d'existence, objectives. Mais la deuxième partie, on a des gens qui nous parlent de assemblée citoyenne. Alors, je dirais à cette question qu'il ne faut pas demander non plus aux Gilets jaunes de faire tout le travail. C'est-à-dire, ils ont fait leur effort. Et quand moi, j'ai décidé d'aller les connaître, parce qu'on ne peut pas, à mon avis, mais ça c'est peut-être parce que je suis ethnologue aussi, on ne peut pas parler des gens si on n'est pas allé leur parler. L'idée de les connaître, de les comprendre, elle était aussi animée par le grand sentiment d'injustice que je voyais à écouter la collection d'épithètes négatives qui leur étaient adressées alors que on n'allait pas les voir, voilà. Et quand quelqu'un dans un dîner d'amis ou familial, parce que les gilets jaunes sont une question qui divise énormément, c'est comme Dreyfus à la fin du 19e, ils en ont parlé, et puis la table est en désordre, quand des amis avaient des jugements péremptoires sur les gilets jaunes, je dis, écoute, viens avec moi, on va les voir. Et j'ai trouvé des gens formidables, mais des gens qui ont fait beaucoup de chemin. Hein.
Est-ce que ce mouvement-là n'a pas permis aussi de redonner une place à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie, en faisant la démonstration que c'était quand même des sciences qui étaient excessivement importantes?
Écoutez, là-dessus, je vais être prudent. Il y a eu des bons travaux qui ont été faits. Je veux dire pas des travaux, la science pour la science. C'est-à-dire les meilleures choses qui ont été écrites, que j'ai lues, c'est des gens qui ont été passés du temps avec un rond-point, etc. Il y a un très 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 joli travail qui a été fait par un Italien et un Français de Grenoble sur le rond-point de Kroll en Isère, par exemple. Ben voilà, ils sont arrivés sur le rond-point le 17 novembre, ils ont quitté au mois de mars et avril, ils ont recueilli la parole, ils ont fait le livre avec les gens, et c'est extrêmement utile. Moi, je suis dans un laboratoire à l'Université de Lille, en sociologie et ethnologie, où il y a quelque chose comme 70-80 chercheurs. On est deux à être allés les voir. Faut aussi être lucide. Et moi et un jeune. Et le jeune, il est allé les voir dans une démarche très curieuse. Il a fait un livre qu'il a publié au mois de novembre, au moment des 3 ans des Gilets jaunes. Il est allé faire ce qu'il appelle de l'ethno-comptabilité. C'est-à-dire qu'il est allé passer des questionnaires sur les ronds-points pour que les gens détaillent leur budget. Il a fait une étude de budget des ménages. Et bien évidemment, bon, cette démarche-là, qui s'intéresse uniquement à la question comptable et objective de la vie des gens, elle les enferme dans une figure de démunis, elle les enferme dans une figure de pauvre, elle les enferme dans la figure dite des fins de mois, et elle n'ouvre pas à essayer de comprendre ce qu'il y a d'intelligence sur la situation politique chez ces gens-là. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes de ménage de lycée, des chefs de cuisine au chômage, qui n'avaient aucune culture politique et qui ont des appétits de connaissances et des idées tout à fait intéressantes à discuter. Mais simplement, il faut aller, c'est ce que j'ai dit dans la conférence l'autre jour, aller chercher quel est le noyau subjectif. Ils ont des idées, ces gens-là, et il faut les entendre, et il ne faut pas les enfermer dans la figure du pauvre, qu'ils récusent d'ailleurs. Parce que je me souviens d'une dame gilet jaune qui dit « Mais nous, les gilets jaunes, ce n'est pas les pauvres, on a même des avocats. » Et ils ont bien raison. François Boulot, l'avocat de Rouen, il y a une avocate à Lille qui a été avec eux tout de suite et qui les a emmenés au bout de 2 ans à réaliser eux-mêmes une pièce de théâtre sur leur histoire. Mais quand une troupe de 30 gilets jaunes, 30, 35, 40, donne des soirées, des journées à l'écriture et à la répétition d'une pièce de théâtre sur leur histoire, et que vous avez là-dedans absolument tout, toutes les situations sociales, et y compris des situations sociales précaires, il se joue autre chose que la question de la fin de mois. Il y a vraiment une portée politique, voilà.
J'ai l'impression, à vous écouter, que vous donnez un certain nombre d'éléments pour comprendre ce mouvement, des éléments qui sont importants à ne pas négliger pour pouvoir par la suite construire autre chose.
Oui.
Avec peut-être l'apport d'autres aspects, comme la philosophie.
De toute façon, voilà, écoutez, regardez, on a passé en novembre leurs 3 ans d'existence, ils n'ont pas disparu. Je pourrais parler de... Ils ont des réseaux dormants. S'il y a des tas de gens qui, pour des raisons d'équilibre de leur vie, parce qu'on ne peut pas être mobilisé tous les jours pendant 3 ans, sont repartis dans certaines activités, se sont plus repliés sur tel élément de vie familiale, etc., mais qui sont prêts à ressortir si c'était nécessaire. La classe politique professionnelle, finalement, n'arrête pas d'en parler. Ça a été quand même l'événement majeur de la mandature présidentielle.
Est-ce qu'elle en tire toutes les leçons nécessaires?
Je ne crois pas, mais en même temps, elle est obsédée par ça, quelque chose comme ça. Il y a une espèce il y a quelque chose au-dessus d'elle qui... Je pense que certains candidats ont compris, d'autres moins, pas du tout. Et puis d'autres événements qui sont intervenus avant que les confinements de la pandémie ne mettent le pays à l'intérieur des maisons. D'autres événements sont venus les rencontrer. Par exemple, on ne peut pas faire une analyse sérieuse du mouvement contre la réforme des retraites de la fin de 2019 et du début de 2020 sans voir comment un mouvement plutôt organisé par les organisations syndicales a dû accepter la venue en son sein de Gilets jaunes qui n'étaient pas du tout animés par la question syndicaliste. Le chant « on est là, on est là », on l'a entendu, je me rappelle de cette image, vous aviez l'orchestre de l'Opéra de Bercy, place de la Bastille, qui était en grève contre la réforme des retraites, qui un samedi après-midi se déploie sur le parvis et les escaliers de la Bastille, et puis vous avez les manifestants, et voilà, le « on est là » rassemble tout le monde, et il rassemble les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de la Bastille. Donc, et là, d'une certaine façon, ça valide mon sentiment que leur proposition, elle est pour tout le pays. Voilà.
Jacques Lemire, je voudrais vous remercier d'avoir consacré un moment de votre journée à la rencontre avec, comme je le disais tout à l'heure, les auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Je regrette très sincèrement que le temps qui nous est imparti soit aussi limité, parce que j'aurais eu plaisir, et je suis sûr que nos auditeurs en auraient fait de même, à vous écouter encore longtemps, nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit, et peut-être à envisager des solutions pour le monde de demain. Merci.
Merci à vous. Merci de votre invitation.
Va, le vote.
J'ai le vote, Jean.
O cabelo da minha nega.
Não precisa mais votar isso.
Olha o meu belo lá.
Não sei.
Não sei, irmão.
Não sei.
Não sei.
Não sei.
Não sei. Quero saber a minha história.
Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos.
Você quer viver ou morrer?